Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serroc.
Donc vous êtes une montpelliéraine, un pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Ce que nous allons faire, c'est une immense aventure. C'est une immense
aventure. Poursuivons donc l'aventure, en tout cas poursuivons l'échange avec Michael Delafosse qui était notre invité la semaine dernière et que nous retrouvons aujourd'hui au micro de Divergence FM pour Racontez-nous votre Montpellier. Vous le savez, Michael Delafosse, la crise démocratique est là, l'abstention s'accroît, c'est persistant, la défiance à l'égard des élus, beaucoup plus élus nationaux que les élus locaux, persiste, le déni de la légitimité empire, comme l'indiquent les chiffres officiels. Le nombre d'agressions d'élus locaux a bondi de 32% entre 2020 et 2021 et les faits officiellement enregistrés sous les différentes formes d'agressions, plus ou moins graves, par les préfectures sont passés de 1720 à 2265. Quelle réponse, selon vous, faut-il apporter au plan local et au plan national pour renforcer et même pour rétablir la confiance? Des réformes institutionnelles, la consolidation de formes diverses de démocratie participative, authentique et féconde, une nouvelle offre politique et un renouvellement du personnel politique appuyé sur des pratiques différentes. Comment analysez-vous ce phénomène qui me paraît majeur pour porter un regard de citoyen éclairé sur la manière dont les choses se jouent et quels éléments de réponse, locaux et peut-être nationaux, souhaitez-vous voir se développer?
D'abord, peut-être... La crise démocratique, elle est manifeste puisque l'abstention ne cesse de s'accroître. Et peut-être que même la démocratie, pour certains, n'est plus une évidence. On voit aujourd'hui la démocratie être... les valeurs démocratiques pour lesquelles beaucoup ont combattu et beaucoup sont attachés, reculer partout dans le monde au profit de tentations autoritaires ou... de démocraties qui deviennent illibérales. Et nous savons qu'aujourd'hui, dans notre pays, la menace de l'extrême droite en 2027 est pas juste un scénario fiction, est malheureusement plausible. Je crois qu'on ne peut pas répondre « il suffirait de faire ça, il suffirait de faire ça ». Ce serait... ceux qui font ça, d'ailleurs,
sont trompeurs.
Non. Moi, je suis maire, je suis un élu, donc je vois bien, je suis moi-même exposé à ça. Et ça m'interroge. Donc, comment moi j'essaye de faire? D'abord, je pense que la première chose, c'est le respect de la parole donnée. Les électeurs, ils votent et il faut que les promesses faites soient honorées. Et si on ne peut pas tenir, on se tourne vers les habitants et on explique pourquoi.
Exactement.
Et on dit, voilà, là, c'était dur. Moi, j'avais promis d'enterrer l'avenue de la Liberté devant Groupama. Je l'avais mis dans mon programme. Et bon... comme c'est compliqué, comme financièrement, là, avec la crise de l'énergie, j'ai expliqué que ce projet-là, nous ne pourrions pas le faire. J'ai argumenté.
En tout cas, dans ce mandat.
Voilà, mais c'était prévu là, donc je l'ai dit. Et puis, j'invite, voilà, j'essaye de tenir mes engagements, la gratuité des transports, la stabilité du taux de taxes foncières pour les ménages, voilà, le bouclier social avec un certain nombre de mesures. C'est important. Le deuxième... aspect que moi, auquel je crois, c'est est-ce qu'il faut un nouveau personnel politique? Ça, on a donné un. En 2017, il y avait ce qu'on appelait la société civile. OK, alors, bon. Moi, j'ai été, vous avez raconté mon parcours dans l'émission précédente. Et moi, par exemple, je pense que c'est très important que les élus conservent une activité professionnelle.
Un pied dans la vie réelle.
La politique, des fois, quand on me dit « votre métier, c'est maire », je dis « non, c'est ma fonction ». Elle m'oblige. Mon métier, c'est professeur. Et ça, c'est aussi important. Ça permet d'être un peu connecté. Ça permet, ça ramène à beaucoup d'humilité, ce qui est très important dans la vie publique. Tenir ses promesses. Exemple, des fois, je fais sourire. Les gens me disent, monsieur le maire, on voit tout le temps en costume cravate, même quand il fait 40.
Ah, ben la fameuse cravate, oui.
Oui, mais je dis, c'est ma fonction. Parce que quand les gens, je suis habillé, dans ma fonction de maire, ils peuvent m'interpeller, on peut discuter. Et c'est aussi une forme de respect que je dois à chacun et à chacune. Voilà.
Ça me semble...
C'est à la fois le respect de l'institution et le respect des habitants.
Ouais. C'est le respect des habitants. Et donc, ma fonction commande cela. Et puis, il y a aussi le débat démocratique. On adore Twitter, hein. C'est vrai. Mais à un moment, les gens ils n'ont pas envie de vivre dans un pays de polémiques permanentes, d'invectives, de conflictualité. Je crois qu'ils ont envie qu'on parle de projet et qu'on montre que les chemins, c'est un peu ce qu'on a évoqué la semaine dernière, il y a des chemins de possibles. Et puis, au niveau local, travailler à des exercices démocratiques. Alors, il n'y a pas de manuel qui dit comment on peut faire parfaitement la démocratie au niveau local. Mais quand on a mené...
Il y a beaucoup d'expériences.
Il y a beaucoup d'expériences. Mais il n'y en a pas... Il n'y a pas... Il faudrait faire comme...
Oui, il n'y a, oui, a, faire... a pas de code.
Voilà. Oui. Mais par contre, il faut cet exercice. Là, on a fait, cette année, Montpellier change avec vous. On a essayé d'aller chercher des personnes qui étaient éloignées du débat démocratique.
Par la tournée des quartiers.
Tournée des quartiers.
Et les différents moments.
Avec, voilà, en invitant des jeunes de 20 ans qui ne viennent jamais aux réunions publiques. Ils ont autre chose à faire. Et c'est normal. Et voilà, et d'essayer d'aller les chercher, de travailler sur la vitalité associative. Il y a eu des choses très bien, il y a des choses à améliorer. Et il faut une vitalité démocratique. C'est un moment de tous les instants, la démocratie. Mais la démocratie, ça ne veut pas dire qu'on dit oui à tout. C'est choisir. La démocratie, ce n'est pas servir l'intérêt particulier. C'est élaborer ensemble l'intérêt général.
C'est dans la production de l'intérêt général.
Ouais. Et puis, je le crois beaucoup. Moi, je suis d'inspiration mindésiste, Pierre Mendès France. Je crois que c'est une éthique. Voilà, on n'est pas parfait. Moi, je ne suis pas parfait. Mais il faut avoir de l'exigence dans la pratique démocratique. Enfin, je crois que nos institutions, pour aller à votre question très juste sur le débat national, sont fatiguées. L'hyper-présidentialisation... Abîme. D'ailleurs, on ne sait plus qui est ministre. Enfin, même les gens les plus experts qui suivent ça ne savent plus dire qui est quoi. Voilà, parce que tout est très concentré sur le chef de l'État. Et je crois que, par exemple, l'inversion du calendrier électoral entre le président et les législatives, ça, c'était une très mauvaise idée. Et c'est pourtant quelqu'un de très bien qui l'a fait, qui est Lionel Jospin. Mauvaise idée. Je pense qu'aujourd'hui, là, il y a des choses à faire. Je trouve, j'ai vu que dans les innombrables séquences que le président Macron invente pour essayer de justifier son injuste réforme des retraites, il y a une idée, moi, qui m'a plutôt intéressé. En tout cas, si on la faisait, je la suivrais. C'est l'idée d'un référendum à questions multiples. On pourrait dire, par exemple...
Qui n'est pas, du coup, une espèce de
plébiscite.
De plébiscite pour
voilà,
ou contre...
la pratique de Napoléon III, ou du référendum, il y a le nom, il faut que le président parte.
Trois ou quatre grandes questions.
Quatre, cinq, peut-être même dix. Êtes-vous pour ou contre la liberté d'installation des médecins? Oui, non. Question. Êtes-vous pour ou contre le droit de vote des étrangers au niveau local? Oui, non. Êtes-vous pour ou contre la légalisation du cannabis? Sujet. Des questions qui, depuis 30 ans, traversent notre vie démocratique et qu'on devrait pouvoir trancher. Mais de manière pas avec des enjeux politiciens en disant comme ça on déstabilise le gouvernement, le président. Non. Pour essayer de définir ensemble l'avenir de notre pays. Moi, c'est une petite contribution que j'apporte. Mais je crois, je voudrais quand même... Le dire aussi, parce que dans votre question, vous avez dit qu'il y a beaucoup d'élus locaux agressés, etc. Les élus locaux agressés, c'est qui? C'est les maires. C'est les maires qui, par exemple, s'opposent au rejet de déchets sauvages. Oui. C'est les maires qui rappellent les règles de la vie en société, qui sont victimes d'agressions. Et donc, si on doit questionner le fonctionnement de notre démocratie, il faut aussi dire ce qui marche. Et que grâce à la démocratie, les alternances politiques sont possibles. On peut donner de nouvelles impulsions. Parce que la critique de la démocratie aujourd'hui, elle vient beaucoup de Vladimir Poutine ou de Xi Jinping, qui dit que les démocraties occidentales sont vieillissantes, sont inutiles, sont inefficaces. Non, la démocratie, c'est quand même un régime qui garantit la liberté. C'est quand même un régime qui garantit le choix. Et la démocratie, c'est... aussi l'engagement des citoyens dans le monde associatif, dans la vie publique, dans les partis politiques, même s'ils n'ont pas bonne presse, même si Moi-même, j'en ai fait les frais, c'est désespérant. Mais quand même, il faut défendre la démocratie comme valeur.
Alors, vous l'avez évoqué, j'avais cette question qui était prévue, la vitalité de la vie associative. Bon, l'Antigone des associations qui a eu lieu dimanche dernier l'a démontré. Est-ce que vous y voyez une raison d'être optimiste sur la vie collective et une source parmi d'autres de la régénération de la vie civique? Mais bon, vous avez évoqué les autres aspects, mais ce tissu associatif, est-ce que vous y voyez une formidable source, je dirais, d'action, d'activité et du coup de vie collective?
Ça donne une force inouïe, l'Antigone des associations. Et merci à tous ces présidents et présidentes, ces bénévoles qui font, qui s'engagent, qui investiguent des sujets, qui portent les solidarités, qui assument la mémoire, qui prennent soin de notre environnement, qui construisent des propositions pour l'avenir de notre ville. Je pense ici, évidemment, à nos comités de quartier avec qui j'ai abondamment discuté, et tant d'autres, le mouvement sportif dans le domaine de la culture. C'est une des vitalités démocratiques. Et il faut soutenir ce monde associatif, ce que nous essayons de faire, municipalité. Dès mon élection, on a réaugmenté les budgets aux associations. Là, j'ai demandé une stabilité parce qu'on a l'impact prix de l'électricité. Je dois être attentif. Mais on va signer avec les associations des conventions d'objectifs sur 3 ans. On va essayer de réduire la paperasse parce que ça désespère les bénévoles. Il faut les soutenir. Puis je suis très en colère. J'ai appris que le gouvernement voulait supprimer les emplois aidés.
Oui.
Les emplois aidés...
De mémoire, 29 000.
Environ 29 000 ou peut-être 25. Mais comment après les émeutes qui ont traversé nos quartiers, qui doivent nous mobiliser, on peut retirer au monde associatif ce contrat aidé, qui est souvent d'ailleurs un chemin d'insertion pour un jeune, pour quelqu'un qui était éloigné de l'emploi. Aujourd'hui, il faut soutenir les forces de la fraternité. Et c'est le monde associatif. Et il faut lui accorder de l'importance, de la considération, du respect. Voilà, quand on a des bénévoles, c'est une chance. Moi, quand je vois des entraîneurs au club des Arceaux, quand je vois à la Pompignan dans le foot, souvent, ils me disent « Ah, monsieur le maire, vous savez, là, ce jeune, il est un peu entre deux, là. Il est attiré par ceux qui veulent vendre la drogue, mais on essaye de le tenir. » Mais un bénévole, un dirigeant d'un club de foot, ça vaut 100 policiers, parce que ça fait un bien extraordinaire. Et ça, à Montpellier, on a une chance inouïe d'avoir ce monde associatif et cette Antigone des associations où je reste 12 heures, là, j'étais parce que c'est tellement enrichissant, c'est tellement... c'est un des plus beaux visages de Montpellier.
Alors, on va aborder d'autres sujets, en parlant un peu politique, comme on dit, même si on n'a fait que ça. Notamment sur la manière dont ça se passe dans vos majorités. Bon, les élus verts de la majorité municipale ont fait entendre leur petite musique sur le contournement de Montpellier, sur le stade. On n'entend pas de discordance flagrante chez les hôteliers du PS. Mais après la mise à l'épreuve de l'Union pendant ces 3 ans, après quelques soubresauts, le départ de la démission de Charles Sultan notamment, comment se porte cette majorité à la ville, que vous pouvez nous en dire, et à la métropole, avec ce petit exercice de recul, honnête, sur les 3 ans écoulés?
D'abord, un point de méthode, de méthode démocratique. Moi, j'ai défendu, dans la campagne électorale, une gouvernance apaisée, fondée sur le respect. Et d'ailleurs, on ne me voit pas souvent dans le journal dire du mal d'un tel ou d'un tel.
Si vous en avez la tentation.
Non, mais la salive, ça s'économise. Et surtout, il faut toujours mettre son énergie sur les projets, pas sur les invectives. Et mon prédécesseur, je crois que ça a été une des raisons de son échec. En tout cas, moi, je n'aimais pas ce style-là. Et donc, il faut être respectueux. Donc, qu'est-ce qui se passe à la ville? Moi, je suis à la tête d'une liste de rassemblement de la gauche, écologistes, socialistes, communistes, radicaux, société civile. Et je suis inspiré de Lionel Jospin. Je l'évoquais la semaine tout à l'heure. La gauche plurielle, chacun a son identité politique. On a un contrat de majorité et on a le droit de faire entendre. On ne va pas renier ses convictions. Moi, je ne suis pas pour caporaliser. Et quand elle s'énonce dans le respect, c'est normal. Ça s'appelle... Moi, j'appelle ça le territoire de conviction. Et ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Donc, voilà. Et quant à la métropole, j'ai l'honneur d'être le président de la métropole, 31 communes. Et donc, c'est avec les maires
qu'il nous faut travailler dans le respect de leurs prérogatives, parce que les maires, ce sont eux qui sont les interlocuteurs des administrés. Et donc, on essaye de construire une gouvernance respectueuse. Je me souviens, en 2017, sept vice-présidents débarquaient parce que maires, sans raison, créant du conflit, et assister au conseil de métropole était pas... plaisait aux commentateurs, mais désespérait les citoyens. Donc voilà, on travaille, on a des points des fois de désaccord, d'appréciation différente, mais il ne faut pas que nous en fassions des psychodrames. Et donc on travaille, et moi je suis très heureux d'être dans cette pluralité, parce qu'elle est très enrichissante, et si moi j'ai mes convictions, le dialogue eh bien, nous permet d'avancer sur un certain nombre de sujets en fidélité aux engagements qui ont été pris devant les Montpelliérains et les Montpelliéraines. Respect des promesses.
Alors, après 30 ans d'adhésion ininterrompue au PS, donc qui raconte une fidélité, vous considérez que la NUP, l'Alliance France Insoumise, PS écologiste, le prochain nouveau nom d'Europe Écologie Les Verts, Parti communiste, est une impasse. Sur ces bases, comment analysez-vous l'avenir du PS, que vous avez traité de paresseux il y a quelque temps ?
C'est vrai.
Quelle perspective proche pour l'union de la gauche voyez-vous pour répondre à l'attente continue et massive des électeurs qui se situent à gauche ? Où est l'espoir, pour reprendre un mot que vous avez prononcé à propos d'autre chose il y a quelques minutes ?
Le rassemblement de la gauche, il est indispensable. Et d'ailleurs, à Montpellier, une gauche rassemblée.
Complètement, on dirait certains.
Non, parce que la France Insoumise a fait le choix de s'allier avec le milliardaire Moed Altrade au second tour, alors qu'on leur faisait des pressions. Mais bon, peu importe. Ça ne m'a pas empêché que René Revol soit vice-président à mes côtés, voilà, pour qu'on puisse travailler sur les dossiers. Je le dis, il faut un rassemblement gagnant pour la gauche. Et moi, j'ai eu la chance, quand j'étais responsable de l'UNEF, il y a très longtemps, de côtoyer Jean-Luc Mélenchon. Et il a suivi une évolution qui lui appartient, à laquelle je n'adhère pas. Une sympathie pour le populisme de gauche et tout conflictualisé en permanence. Et d'ailleurs, François Ruffin, aux universités d'été de la France Insoumise, a dit « Mais il faut arrêter d'hurler, il faut arrêter de crier. » J'ai trouvé ça très bien de sa part.
Il l'a redit devant ses amis.
Oui. Et je pense que si on est sur un rassemblement de la gauche qui tend vers le populisme, la gauche sera condamnée à témoigner. Et donc, moi, je plaide...
C'est l'échec annoncé.
Mais évidemment. C'est parce que, qu'est-ce qui se passe ? Au premier tour, score honorable, l'Union. Mais au second tour, il faut convaincre des électeurs d'apporter leur soutien. Une élection, c'est faire 50+1. Gagner la présidentielle, gagner une législative. Et il faut observer qu'une partie des électeurs, aujourd'hui, disent « Là, on ne peut pas suivre ça. » Et donc, moi, je défends un rassemblement de la gauche... qui consiste à formuler des propositions que nous tiendrons, qui contribuent au débat d'idées et qui ne cherchent pas à tout conflictualiser matin, midi et soir, parce que je ne crois pas que ce soit gagnant. Mais une gauche aussi, qui appréhende tous les sujets. Comment on mène la transition écologique sans tomber dans l'écologie punitive ? Exemple, la gratuité des transports. Comment on est sur les questions qui préoccupent nos électeurs ? Celles de sécurité ? Les habitants des classes populaires, des classes moyennes, les habitants des cités HLM, ils attendent de nous qu'on parle de ce sujet. Parce que quand leur voiture se fait défoncer, que la nuit, ils ont été réveillés par un feu de poubelle, et qu'on leur dit rien, eh bien là, ils sont tentés dans l'abstention ou parfois dans les votes de colère. Donc, il faut traiter ces sujets. La gauche, elle doit parler de ça. La gauche, elle doit aussi avoir... un projet positif pour la France, pas être dans une critique permanente. Et donc, elle doit dire des choses. Et quand je disais que le PS était paresseux, je le crois, parce qu'ils ne travaillent pas assez ces sujets. Parce que les électeurs de gauche, eux, ils attendent des grands partis politiques, même si en ce moment, électoralement, c'est pas top, des grandes propositions. Que disons-nous pour l'école, sur l'hôpital public, sur la question du travail, sur ces nouvelles formes de pauvreté, comme les femmes seules avec enfants, comme les retraités avec petite pension. Quelles propositions nous formulons ? Qu'est-ce que nous faisons pour la jeunesse ? Monsieur Macron fait le SNU. Très bien, ça coûte cher. OK. Et nous, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Moi, par exemple, je l'ai énoncé, je dis que
Pas un jeune ne doit pas vivre l'expérience du voyage à l'étranger. Voilà. Payer 6 mois, 3 semaines, mais si on veut faire l'Europe, il faut faire des Européens. Voilà, on pourrait défendre cette idée comme cela. Pour nos services publics, il faut une gauche qui en parle et qui dise comment on peut améliorer leur efficacité et qui combat les cadeaux que parfois on fait aux acteurs privés sur un certain nombre de sujets. Disons-le, travaillons. Voilà.
Mais à quel horizon ? 2026, 2031
En tout cas,
je ne me demande pas de faire la,
non,
de tirer les cartes non, de la carte ancienne.
D'abord, mais... je peux pas, c'est pas à moi de tirer les cartes. Et je sais que quand je dis ça, Jean, il me pose cette question. Et alors, comment on fait pour la présidentielle, etc. D'abord, c'est dans 4 ans. Mais il faut travailler. J'ai la faiblesse de penser, ou j'ai la conviction, que ce que nous faisons à Montpellier, ou ce qui se fait dans un certain nombre de villes ou de territoires, eh bien, peut être source d'inspiration, peut être des exemples, qu'il y a des chemins de possibles. La gratuité des transports, c'est une mesure emblématique pour la gauche. Voilà. Et donc, il faut mobiliser ces énergies-là. Et puis, nous devrons bâtir un programme de gouvernement, convaincre là-dessus. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si c'est la stratégie de la bordélisation à l'Assemblée nationale, eh bien, il y en a qui sont tout calmes, qui attendent. Et comme, hélas, l'a montré... sondage.
Ils ont mis une cravate. Hein.
Oui, et puis
ils font les sages.
Et puis ils sont très sages. L'extrême droite aujourd'hui, elle est très policée. Elle se montre sérieuse, alors qu'elle porte en elle les germes de la violence et du racisme, et qu'elle doit être combattue de toutes nos forces. Mais elle est habile, et on doit donc s'interroger sur comment nous on va reconvaincre des électeurs qui sont partis ou qui ne votent plus pour espérer gagner. L'élection présidentielle et les élections législatives. Mais je ne crois pas que ce soit par l'outrance permanente qu'on gagne. C'est en essayant d'avoir un projet lisible, clair, crédible, mobilisateur sur des valeurs de transformation de la société, du nouveau paradigme écologique et très clair sur les questions républicaines sur lesquelles nos concitoyens nous attendent.
Alors, quelques questions d'actualité. Bon,
allez.
On a essayé de prendre du recul. Je crois que nous y sommes parvenus, mais les auditeurs en jugeront. Liées à la rentrée. Donc, vous avez évoqué, bon, à grand trait, les grandes lignes de vos politiques en matière de l'école. L'école avec un grand E et puis les écoles. La question de l'abaya. Vous avez approuvé cette décision. Ce phénomène, vous l'avez constaté vous-même,
oui.
À Foncarade ou ailleurs.
Et depuis longtemps, je dis qu'il faut de la clarté.
Donc, vous avez vu ce phénomène. Comment s'y prendre ? Est-ce qu'il ne faut pas, me semble-t-il, distinguer les cas où c'est à l'évidence l'affirmation contre la règle hein, d'une religion ? Ou ça peut être aussi, vous connaissez bien ça, l'expression d'une identité d'adolescent hein, qui montre qu'il est là, un peu en sort des clous. Ou m'a dit quelqu'un, à l'âge où les corps se forment, on cache son corps parce qu'on a pris du poids et on n'assume pas ce qu'un corps s'est devenu dans cette période particulière de la vie, l'adolescence. Et donc du coup, si vous me suivez, en gros, je dis, par rapport à ces différents phénomènes qui peuvent être conjugués, comment s'y prendre pour éviter, du coup, pour rester dans le respect, ouais. Pour reprendre un mot que vous avez beaucoup évoqué, le respect des convictions de ces jeunes gens.
Il faut d'abord... de la clarté pour les personnels de l'éducation, les chefs d'établissement, les professeurs. Il n'y a rien de pire que le pas de vague. Vous savez, on a beaucoup souffert de ça dans l'éducation nationale.
Est-ce que c'est plus clair avec les derniers textes
oui,
qui sont arrivés du ministère ?
Je le crois parce que ça dit clairement la loi de 2004, la neutralité à l'école et le refus du prosélytisme religieux. Que personne ne peut nier. C'est un phénomène qui travaille aujourd'hui et sur lequel on doit être extrêmement attentif. Il est minoritaire, les élèves, dans leur immense majorité. Voilà, mais il y a une réalité, une volonté de déstabilisation de l'institution scolaire. Donc cette clarté, elle aide. Mais évidemment, nous sommes qui, les personnels de l'éducation ? Nous sommes des pédagogues et nous expliquons et nous parlons. Et donc aujourd'hui, la mesure d'interdiction des abayas, qui était nécessaire parce que c'est la clarté et de réaffirmer le principe de 2004, elle permet...
Même si un coup politique hein, bon, du ministre là-dessus.
Peut-être que lui, il a fait... Enfin, pour moi, si vous voulez, ça aurait dû être dit depuis des années, voilà, cette affaire-là. Et on a laissé, etc. Ce qui ensuite permet à des forces d'intolérance de s'exprimer. Donc Ça aurait dû être fait plus tôt. C'est pour ça que moi, depuis des mois, je plaide dans de nombreuses interviews pour qu'il y ait de la clarté, parce qu'on a vu des phénomènes de prosélytisme. Après, je vais prendre peut-être d'une autre manière. Il y a des gens, maintenant, ils nous disent « faut mettre l'uniforme
hey, ». Ah oui, oh, stop. Alors, là. Stop. J'avais cette question sous le coude.
Mais non. Mais non. Mais non, parce que d'abord, ça coûte cher. Et qu'on ferait mieux de payer les professeurs ou, par exemple, de leur payer des ordinateurs, pour que t'as... enfin, pour payer plein de choses à la place. On parle du retour de l'uniforme, mais l'historien que je suis, l'uniforme sous la République, dans l'école publique, n'a jamais existé. Il y avait, c'est vrai, des tenues un peu codifiées que les enfants adoptaient. C'était
Moi, j'ai connu l'époque de la blouse, mais oui, c'est dû à mon grand âge.
C'était la blouse, mais c'est pas l'uniforme au sens où on l'entend dans les écoles britanniques, ce que veulent, là, M. Ciotti, tous ces gens. Et après, moi, je le dis... Je suis professeur en collège et je vois que les modes, ça compte, etc., etc. Donc ça, c'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est d'être très au clair sur la question de la laïcité. Et là, nous y sommes, d'une part. Et d'autre, c'est d'avoir des moyens pour l'école et d'avoir une ambition éducative pour l'école et pas d'amener à l'école des faux débats. Celui de l'uniforme est un faux débat. J'ai vu le président de la République, qui s'est déconsidéré en disant « Je veux qu'on enseigne la chronologie dans les cours d'histoire. »
Comme si elle n'existait pas.
Mais comme si elle n'existait pas. On fait l'histoire chronologique depuis toujours. Et je vais même dire, ça s'est plutôt renforcé ces dernières années. Et je suis le premier à m'en réjouir comme professionnel, parce que les dates, c'est des repères. Et les enfants, ils aiment bien ça. Ça aide à construire. Donc l'école, elle doit pas... Elle doit être... on doit traiter ces problèmes. Et l'école... C'est le temps long. C'est pas le temps d'un tweet. Pour former un enfant, il faut 18 ans, 20 ans, un jeune. Il faut du temps. Et donc, c'est cette confiance-là qu'on doit donner. Alors, plutôt que de dire on va payer des uniformes, payons des heures de soutien scolaire. Plutôt que de dire dénoncer le pédagogisme, défendons la liberté pédagogique des professeurs. Parce que les professeurs, ce sont eux qui connaissent le meilleur chemin pour faire progresser les élèves. Quand le ministre Attal dit « je veux créer un choc des savoirs », mais qu'est-ce que c'est que ça encore ?
Voilà.
C'est une formule
de com.
De com. Eh bien, l'école, c'est pas de la com, c'est du sérieux. Parce que l'école, c'est de l'exigence. Et quand nous sommes exigeants pour nos élèves, mais on peut leur faire gravir des choses très hautes. Et c'est ça qu'on doit porter. Et nos élèves, ils ont besoin d'un débat démocratique respectueux, parce qu'ils nous regardent. Ils regardent la manière dont nos institutions fonctionnent. Ils regardent la manière dont les adultes s'expriment. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale et le président de la République, et je l'appelle de mes voeux, serait bien plus juste s'il appelait à une grande mobilisation contre le racisme, dont la parole s'est décomplexée sur ces chaînes d'information continue et où, de temps à autre, on se met à accepter des propos que, il y a 10 ans, nous n'aurions pas acceptés. Et je le dis en grand républicain, la formule de Lamartine, je suis de la couleur de celui qu'on persécute. Et l'une des réponses aux émeutes, c'est de dire « ça suffit ». Il y a des paroles qui se sont libérées, ça n'est pas acceptable. Et ça, c'est une exigence républicaine. Alors voilà, moi, comment je crois qu'on doit mener ces débats. Sur les abayas, il faut être clair, parce qu'aujourd'hui, ça relève du prosélytisme religieux, qu'il existe. Voilà que les jeunes, les ados, ils ont des formes vestimentaires. Ça a toujours été. D'ailleurs, quand ils verront leurs photos de classe dans 15 ans, ils diront comment on pouvait s'habiller comme ça. Voilà. Donc ça, il faut. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il faut protéger, comme le disait Jean Zay, si justement l'école des querelles de la société. L'école, les professeurs, ils ont besoin de confiance, ils ont besoin de clarté sur les règles et ils ont besoin de moyens pour travailler. Et on aurait voulu rendre service aux familles en cette rentrée. On aurait eu un très bon ministre de l'Éducation nationale s'il avait augmenté l'allocation de rentrée scolaire pour protéger les familles face à l'inflation et en particulier les femmes seules avec enfants pour qui la rentrée est encore plus dure avec le choc de l'inflation.
Eh bien, on s'en tient là, Michael de la Force.
Je vais revenir parce qu'il faut que je parle quand même de Henri Cusson de Montpellier.
Vous avez déjà eu droit à un sort particulier.
Je sais.
Voilà, puis vous avez à nouveau prononcé le mot de confiance, qui est un des fils conducteurs de notre échange. Merci à vous.
Merci à vous.
Et
merci
beaucoup. À une prochaine fois.
Et merci aux auditeurs et auditrices, et surtout bravo à Divergence, qui est une formidable radio associative, symbole de la liberté d'expression qui nous est à tous si chère. Merci.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, une pure jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Ce que nous allons faire, c'est une immense aventure. Une immense aventure.